Bonsoir à tous. Nous continuons notre série dans les Proverbes et nous sommes à Proverbe 28. On va voir, comme la dernière fois, quelques versets pris un peu au choix dans le chapitre. Et on s'arrêtera plus particulièrement sur un où on va essayer de sortir une pensée plus centrale. Et une première chose à dire juste sur les Proverbes, sur celui-là en particulier, sur ce soir, peu importe. Une chose qui est intéressante avec les Proverbes, mais pas que dans la Bible d'ailleurs. C'est le côté simple. En une phrase, vous essayez de dire quelque chose qui a beaucoup d'implications, en fait. Et c'est assez intéressant. Et du coup, on va démarrer juste avec un verset qui est pas bien compliqué, mais c'est bien des fois d'y penser, d'y réfléchir et de voir où est-ce que concrètement on se positionne par rapport, par exemple, à ce verset-là, vis-à-vis de la vérité. Donc ici, en Proverbe 28, au verset 5, il est dit: Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et c'est intéressant parce que l'homme, en général, il essaye de comprendre. Il essaye de comprendre les choses et il utilise son intelligence, il utilise son expérience, il utilise l'histoire, enfin bref, peu importe. Il utilise ce qu'il peut observer. Et ici, la Bible, alors évidemment que là, on parle peut-être pas forcément de connaissances en mécanique, par exemple, hein. On est en train de parler plutôt de connaissances d'un ordre peut-être plus spirituel, immatériel, de connaissances, je dirais, sur comment conduire notre vie, comment être dans cette vie et pourquoi être dans cette vie, bien sûr. Mais quand même, l'homme a un petit peu un schéma qui est malgré tout toujours un peu le même, même si c'est par rapport à ces questions qui sont plus métaphysiques. Et donc ici, il nous a dit une chose quand même assez intéressante. Il est dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ça divise l'humanité en deux. Les hommes livrés au mal et ceux qui cherchent l'Éternel. Et ne croyons pas que cette division, elle est entre croyants et non-croyants. Évidemment que les non-croyants... Enfin, non, même pas. Je vais même dire que quelque part... Non, on ne va pas dire ça comme ça, mais en tout cas, on va dire que les non-croyants vont par nécessité être dans les hommes livrés au mal, de gré ou pas de gré. Et ceux qui cherchent l'éternel, finalement, nous ne sommes pas forcément tous des gens qui cherchons l'éternel et on a besoin peut-être de le considérer, mais pour notre vie, pour notre bien et pour ce que nous voulons vivre demain et les choix que nous avons à réaliser en fin de compte. Si je pense que parce que je suis chrétien, je suis quelqu'un qui cherche l'éternel, je suis quelqu'un qui aime l'éternel, etc., alors que peut-être l'évidence de ma vie n'est pas celle-ci, en fait, je ne suis pas dans le verset et je crois que je suis quelqu'un qui aime Dieu et je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne comprends pas grand-chose à la vie? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas grand-chose à la Bible? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas grand-chose à Dieu? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas grand-chose à mes semblables? Ben parce que tu n'es pas dans ce verset, ou je ne suis pas dans ce verset par moment, et donc je ne suis pas une personne qui comprend tout, parce que finalement, peut-être que mon expérience, ma vie au quotidien, et peut être trop souvent proche de l'homme livré au mal, plutôt que celui qui cherche l'éternel. Et je pense que il est important peut-être de considérer une chose régulièrement, c'est est-ce que dans ma vie je cherche l'éternel? Est-ce que je cherche l'éternel? Dans la loi, il est dit d'aimer l'éternel son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Est-ce que je cherche l'éternel? Ou est-ce que je pense que je suis arrivé? Les pharisiens, eux, ils pensaient qu'ils étaient arrivés. Eux, ils pensaient qu'ils étaient dans la deuxième partie du verset. Pourtant, ils vivaient la première partie, en fait. Et nous faisons un petit peu attention de ne pas être dans la première partie du verset, parce que ça ne sera pas profitable pour nous et pour notre environnement. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que je cherche l'éternel? Et juste chose, c'est ça le point qui est intéressant. Est-ce que chercher l'éternel, est-ce que c'est plus un objectif dans ma vie que de faire du bien, que d'être spirituel, ou d'être reconnu spirituel, ou être un faiseur de bien? Voilà. J'ai besoin, moi, dans ma vie intérieure, de savoir est-ce que je cherche l'éternel. Et si je ne le cherche pas, eh bien, j'ai besoin de lui demander de le chercher, en fait, quelque part. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième verset sur lequel je veux m'arrêter un petit moment. C'est le verset 9. Il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc un petit peu dans l'enchaînement du premier verset, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième verset parle nécessairement de croyants. Parce que si dans la deuxième partie du verset, il dit, sa prière même est une abomination, c'est qu'a priori, on est en train de parler de gens qui a fortiori et a priori, croient déjà qu'il y a un Dieu. Recherchent plus ou moins une relation, ou en tout cas ont un mode opératoire vis-à-vis de Dieu, ou pensent en avoir un, qui soit correct ou qui ne soit pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Ça, c'est encore une chose, je pense, que nous avons besoin d'y réfléchir souvent, parce qu'on peut se dire, OK, moi, je lis ma Bible tous les jours. Moi, je vais à l'église une fois, deux fois, trois fois par semaine, peu importe. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas forcément vrai. Forcément, pour écouter la loi, il faut commencer par écouter. On est bien d'accord. Deuxièmement, il faut que ça soit la loi. Enfin, quand je dis la loi, on va élargir. Il faut que ça soit réellement la parole de Dieu et pas juste des imprécations ou des hérésies ou des demi-hérésies ou des choses très imprécises, évidemment. Donc, il y a ça. Donc, déjà, est-ce que j'écoute? Deuxièmement, est-ce que c'est bien la loi, entre guillemets? Voilà. Autre chose aussi, la loi, quelle est-elle? Donc, évidemment que là, en Proverbe, il est en train de parler de la loi de Moïse, puisque celui qui écrit, c'est Salomon, il est hébreu, il est en Israël, et il s'adresse forcément au peuple, en première intention en tout cas. Donc évidemment, il parle de la loi de Moïse. Mais évidemment qu'on va aussi élargir cette loi en parlant de la parole de Dieu de manière plus générale, bien sûr. Mais ce qui est ici intéressant, c'est que déjà la loi de Moïse, comment dire, qu'est-ce qu'elle révèle? Ben, la loi de Moïse, elle révèle, entre autres choses, le caractère de Dieu, qui est Dieu. Et du coup, ça veut dire que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, en fait, ça veut dire, je rebondis un petit peu sur le verset précédent, ou le verset plutôt sur lequel je me suis arrêté précédemment, ça signifie qu'en fait, je ne cherche pas l'Éternel. La personne qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire que je ne cherche pas l'Éternel. Donc, je n'aime pas l'Éternel. Ou pas de la manière dont il est attendu que je l'aime et que je le cherche. Et puis, une autre chose qui est intéressante dans ce verset-là, c'est qu'il y a une détermination. Il y a une détermination, c'est-à-dire que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, c'est pas si quelqu'un est négligent, c'est pas si quelqu'un n'est pas au bon endroit, c'est pas si quelqu'un, ah, il n'a pas de bol, les circonstances ne se sont pas agencées pour, c'est pas ça. Là, le verset, il est en train de dire, je te parle à toi et je suis en train de dire, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter, donc tu ne veux pas connaître, donc tu ne veux pas obéir, donc tu ne veux, en finalité, tu ne veux rien avoir à faire avec celui avec qui tu devrais vouloir avoir affaire, en fait. Donc, tu ne veux pas de relation non plus. Forcément. Donc ça, c'est la chose qui est, je pense, assez intéressante. Et une autre chose, c'est si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, donc sa prière même est une abomination. Parce qu'en fait, croyant ou non croyant, nous avons tous des prières, nous avons tous des demandes, nous avons tous des aspirations qui sont métaphysiques, qui ne sont pas juste mon pain quotidien. Des fois, c'est très important, le pain quotidien, mais voilà, des questionnements, des désirs, des souhaits, etc. qui dépasse. Mais là, il nous est dit que là, pour le coup, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, celui-là, ben, en fait, sa requête, elle n'aboutira à rien. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes des croyants et on se dit, ben, tiens, moi, je suis enfant de Dieu, donc je suis enfant de Dieu, Dieu est mon Père, donc moi, je prie, je parle, il m'écoute. Ouais, il veut t'écouter, ouais. Ouais, il veut répondre. Ouais. Peut-être qu'il ne va pas répondre comme tu veux non plus. Mais peut-être que si, malheureusement, à un moment donné dans ma vie, il y a cette attitude de ne pas de détourner l'oreille pour ne pas écouter la loi, ma prière est une abomination. Et pourquoi c'est une abomination? Parce qu'en fait, c'est un non-sens. Je ne veux pas écouter ce qui concerne Dieu, et en même temps, je veux lui demander des choses. Donc, c'est une relation qui est complètement corrompue. Et une dernière chose, c'est que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est aussi, comment dire, ne pas chercher à mettre en pratique. Et je vais juste vous lire un verset, alors, si je le trouve, si je m'embrouille pas et que je le trouve vite fait, dans Jacques, il y a un verset qui parle de ça et je vais essayer de vous le trouver vite fait pour pas non plus perdre de temps. Donc, je le trouve ou je le trouve pas. C'est au chapitre 1, je crois. Oui, c'est ça. Donc, voilà. C'est pas ça que je voulais. Ouais, c'est ça. Au verset 21, chapitre, donc Jacques, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, verset 22, c'est ça. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le problème, c'est que quand je ne mets pas en pratique, je détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi en réalité. Et je me trompe moi-même. Je m'abuse moi-même. Il y a des versions qui disent, ne vous abusez pas vous-même, ne vous illusionnez pas vous-même, vous voyez, par des faux raisonnements. Les faux raisonnements, en grec, c'est une fausse logique, en fait. Paralogizomai. Mais peu importe, on va pas développer sur Jacques 1,22, mais c'est intéressant de le voir un peu en application par rapport à ça. On va continuer, on va voir un autre verset. Un autre verset. Ouh là là là. Alors, le verset 13, je le saute volontairement, on va y revenir après, ça doit être mon verset central. 13 et 14, on va faire, mais surtout 13. Alors, on va faire verset 19. Je continue un peu mon développement. Verset 19, il dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Là, qu'est-ce qui est important dans ce verset-là? C'est de savoir quel est mon champ. C'est de savoir quel est mon champ et qu'est-ce que j'ai à cultiver en fait. Et du coup, ce qu'il faut considérer ou s'arrêter de temps en temps à savoir, c'est à quoi je suis appelé, comme on dit communément. Alors, il y a des choses générales auxquelles je suis appelé. Je suis appelé effectivement à me rassembler avec les frères et sœurs. Je suis appelé à prier. Je suis appelé à témoigner de Christ. Je suis appelé à de bonnes œuvres, à des œuvres préparées d'avance. Je suis appelé au pardon, je suis appelé voilà, à pas mal de choses comme ça, on peut en mettre d'autres. Et après, il y a peut-être des choses plus particulières auxquelles je suis appelé et qui vont être plus particulièrement mon champ. Il y a des choses qui sont communes à nos champs, mais il y a des choses qui sont mon champ à moi, ce n'est pas le vôtre, et vice-versa. Et il ne faut pas essayer de cultiver un champ qui n'est pas à nous. Même si, on va dire, celui qui devrait être dans le champ est absent. Je n'ai pas à m'occuper du champ qui n'est pas le mien. J'ai besoin de savoir devant Dieu quel est mon périmètre, quel est comment dire, mon domaine d'action, en fait. Hein? Et du coup, ben, il y a des gens qui vont passer plus de temps dans la prière, il y a des gens qui vont passer plus de temps dans la parole de Dieu, il y a des gens qui vont beaucoup plus témoigner, évangéliser, il y a des gens. Ils vont être beaucoup plus serviables, il y a des gens qui vont être plus hospitaliers, il y a des gens qui vont donner plus d'argent, de temps, d'aide, etc. Pourquoi? Parce qu'ils auront écouté de Dieu et ils savent que leur champ à eux, c'est ça. Et ce n'est pas d'essayer d'être pasteur, d'être chanteur dans la chorale ou je ne sais pas quoi d'autre, ou d'être évangéliste alors que, voilà, tout le monde doit témoigner et en même temps, tout le monde ne saute pas forcément sur tout ce qui bouge. Voilà, on a des vies différentes, on est différents, on a des champs différents et Dieu met des points d'importance un peu différents pour les uns et les autres, même si forcément il y a une trame commune. Et ça, c'est important parce que quand on ne sait pas quel est notre champ, en fait, on tire à tout va et on se fatigue. Et en fait, on a un sentiment d'inadéquation parce que c'est pas mon champ que je suis en train de travailler, c'est un autre champ. Et du coup, en fait, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais faire. Ou pas complètement. Ou en partie, je ne fais pas ce que je devrais faire. Et pas forcément en faisant des choses mal, même sûrement en faisant des choses bien, des fois même des choses qui sont spirituelles, des choses qui peuvent être complètement agréées par Dieu. Mais voilà. Et j'aime bien à donner cet exemple parce qu'en fait, il est un peu. Il peut être perturbant. C'est l'exemple de. Comment il s'appelle Lewis Perry Schaeffer, c'est ça. Donc ça, c'était le directeur du séminaire de théologie de Dallas. Voilà, donc on a des bouquins de lui et d'autres de ce séminaire qui sont recommandés dans nos mouvements d'église. Et en fait, ce gars-là, je ne savais pas, mais en fait, donc j'ai appris en entendant ça une fois, je vous l'avais déjà dit, en fait, il chantait dans les campagnes dans des campagnes d'évangélisation. Et les gens se convertissaient, donc aux États-Unis. Et donc, vous vous dites, ben voilà, ça y est, il a son chant, tout va bien. Donc, je ne dis pas que ça, ce n'était pas son chant, mais en tout cas, c'était son chant pour un certain temps. Et à un moment donné, Dieu lui a dit, ça, tu vas arrêter et tu vas étudier la théologie. Et puis, tu vas enseigner la théologie. Et là, on est là, on se dit, mais attendez, l'important, c'est que les gens soient sauvés. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la théologie? On s'en fiche de la théologie. Je veux dire, non, c'est beaucoup plus important que quelqu'un se convertisse à la destinée pour l'éternité. Oui, Dieu est d'accord. Dieu est d'accord, mais Dieu lui dit, non, tu vas arrêter ça, tu vas faire la théologie. Soit il a mal entendu, soit c'est Dieu qui a parlé, et auquel cas, Dieu, à un moment donné, lui a dit, voilà, ton chant, maintenant, ça va être ça. Il n'y a rien à redire sur ce qui a été fait jusque-là. C'était très bien, c'était parfait, c'était OK. Mais maintenant, je te demande ça à faire d'autre. Et du coup, voilà, je trouve ça assez intéressant. Et si cet homme, il avait continué à chanter et à faire les campagnes d'évangélisation, est-ce que les gens ne seraient pas convertis? Certainement que si. Est-ce que ça aurait pas été de Dieu? Certainement que si. Mais sûrement que lui, il aurait vécu une lutte intérieure avec Dieu qui n'était pas nécessaire. Et en fait, il aurait été en train de s'opposer à Dieu, alors qu'en fait, tu te dis, mais attends, super. Même les gens se convertissent, super. Donc le gars, il ne se trompe pas. Ben si, il se trompe, il se serait trompé. Donc c'est pour ça que je dis à nous de savoir devant Dieu et pas devant les autres, quel est notre champ. Parce que sinon, on va vivre à l'intérieur une tension qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas voulue par Dieu, parce que Dieu a certaines choses pour nous et pas d'autres. Il y a des temps, il y a des saisons aussi, voilà, et à un moment donné, Dieu a dit une chose, et ce qui était valable à un moment donné ne l'est plus à un autre moment. Donc c'est comme ça. Ensuite, on continue au verset 21. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais quand même dire une chose là-dessus. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est. Des fois, on se dit, je ne suis pas concerné par ce verset ou par ce point-là. Mais en fait, quand on réfléchit 2 secondes, tous, très naturellement, on fonctionne là-dedans, en fait. Au verset 21, il dit, il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. En fait, ici, il est parlé de favoritisme. Et nous, on pourrait dire, oui, mais moi, je fais pas de. Moi, je voilà, j'aime tout le monde, l'amour de Dieu, patin, couffin, etc., etc. Ok, d'accord. Et dans l'application de la parole de Dieu, est-ce que je ne fais pas une différence entre l'un et l'autre? Est-ce que je ne fais pas une différence entre ma femme et un étranger? Est-ce que je ne fais pas une différence entre. Alors, il y a des différences qui doivent être faites aussi, hein, vous affolez pas non plus. Hein. Mais je veux dire, il y a un certain nombre de vérités, elles sont vraies pour tout le monde. Si quelqu'un ment, il ment. Ce n'est pas parce que c'est mon ami que c'est pas, il ne ment pas. S'il ment, il ment. Si quelqu'un commet une erreur, il commet une erreur. Et je n'ai pas à dire qu'il n'en commet pas parce que. Ben parce que c'est mon ami, parce que ça ne m'arrange pas, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est faire du favoritisme. Et il ne faut pas que je le cache, comment dire, par des éléments extérieurs qui sont effectivement, oui, mais c'est ma famille, c'est mon ami, c'est un frère ou une sœur dans l'église, c'est un pasteur, on ne touche pas, c'est ceci, c'est cela. Non. Si la personne, elle fait une faute, elle fait une faute. S'il faut dire quelque chose à la personne, il faut dire quelque chose à la personne. Après, il y a une manière de dire, il y a un temps de dire, OK, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Est-ce que je suis, moi, autorisé à dire? Est-ce que je suis témoin de la chose? Enfin, OK, il n'y a pas de problème. Mais dans la finalité, la Bible, à d'autres endroits, le dit, tu dois pas dire que le méchant n'est pas méchant. Quand le méchant est méchant, il est méchant. Et tu dis pas, il n'est pas méchant. Tu dis pas qu'il transgresse pas. Il transgresse, même si c'est ton ami qui transgresse. Et du coup, il est dit au verset 23, et là je ne vais pas m'étaler plus, celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Donc voilà, donc si on veut jouer à ce jeu du favoritisme, qui est très naturel, et qui est un lien, je dirais même important dans les important dans le sens qu'il est fort dans les relations humaines dans le monde. Eh bien, ça va pas être profitable. Et ici, il nous est dit que pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Pour un morceau de pain. C'est quoi le morceau de pain? C'est la relation que j'ai avec mon ami. Mais du coup, je me livre au péché. Je bafoue la parole de Dieu. Donc, je fais quoi? Je décide de détourner mon oreille de la loi. Et vous revenez au verset précédent dont on a parlé. Ensuite, on a verset 25, 25, 26 et 27. On va aller très vite et on va aller retourner aux deux versets sur lesquels je veux m'arrêter plus. Donc, verset 25, l'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Ce qui me plaît ici, ou ce qui m'intéresse en tout cas, c'est qu'il y a un parallélisme ou une position qui est donnée et on ne parle pas du même résultat en fait. C'est-à-dire que l'orgueilleux, il excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Sous-entendu, l'orgueilleux, lui, il n'est pas rassasié. Ou il essaye de se rassasier en suscitant des querelles. Et celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Et vous savez, on avait parlé il y a 15 jours du fait d'avoir faim de la justice de Dieu. Nous avons besoin d'avoir faim des bonnes choses, en fait. Faim de la bonne personne, faim de la bonne relation, faim de la vérité et faim du caractère de Dieu. Et donc ici, qu'est-ce qui va nous combler profondément et de manière durable dans notre vie? C'est de nous confier dans l'Éternel. Ça va nous rassasier. Verset 26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc, voilà, celui qui a confiance dans son propre cœur, il s'est complètement trompé. Et faisons attention, où est-ce que nous plaçons notre confiance? On va le dire autrement, sur quoi est-ce que je m'appuie? Sur mon propre cœur ou sur l'Éternel? Parce que sinon, je vais être celui qui est orgueilleux et qui suscite des querelles. Sinon, je vais être celui qui ne va pas être sauvé dans sa vie. Je ne parle pas de salut éternel, mais je ne vais pas être sauvé. Dans ma vie au quotidien, je ne vais pas être sauvé dans mes tensions intérieures, je ne vais pas être sauvé de mon péché dans ma pratique quotidienne, je ne vais pas être sauvé de mes situations, je ne vais pas être sauvé des problèmes qu'il y a dans ma vie, tout simplement, parce que le mode opératoire n'est pas bon. Alors, on va revenir en arrière et on va regarder ces deux versets que je voulais voir, enfin, surtout le verset 13. Il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. D'abord, au verset 14, comment dire, il nous est dit que il était une qualité d'être continuellement dans la crainte. Vous comprenez bien que c'est pas être dans le stress, c'est pas être dans la crainte comme le mot le dit en français, même si là c'est le même mot, hein. Il n'y a pas besoin de chercher en hébreu, ça veut dire autre chose. Évidemment, là, il est parlé d'une bonne crainte qui est vis-à-vis de Dieu, évidemment. Donc, je ne vais pas forcément développer plus là-dessus, mais quand même, c'est intéressant. Je pense que cette crainte-là, il faut la mettre en parallèle avec ce désir que nous avons besoin de cultiver, de rechercher l'Éternel et d'aimer l'Éternel. Et en fait, voilà, quand je ne cherche pas l'Éternel, quand j'aime pas l'Éternel, ben en fait, j'ai pas de crainte. J'ai pas de crainte de Dieu, en fait. Je n'ai pas ce respect, cette crainte et cette petite inquiétude qui est un aiguillon de faire mal à celui que j'aime, d'altérer, d'abîmer une relation qui me fait du bien, avec Dieu, évidemment, etc. Donc ça, c'est important. Donc, et il nous est dit quand même que celui qui n'est. Donc du coup, l'opposé de celui qui est continuellement dans la crainte, c'est celui qui endurcit son cœur. Et qui tombe dans le malheur. Il endurcit son cœur. Donc ça veut dire que quand je ne cherche pas l'Éternel, quand je n'ai pas cette sorte de crainte qui est correcte vis-à-vis de Dieu, je peux aussi avoir une autre crainte vis-à-vis de Dieu qui est une peur de Dieu, qui est un manque de confiance, qui est être complètement déstabilisé par rapport aux circonstances que Dieu amène dans ma vie, parce que justement, je n'ai pas confiance en lui, je ne cherche pas lui, je veux tout maîtriser. Et du coup, j'ai peur de ce qu'il peut permettre dans ma vie. Alors qu'en fait, je devrais avoir une crainte vis-à-vis de Dieu qui est Tout ce qui arrive, c'est dans ses mains. Il maîtrise et moi, j'ai confiance, pas dans les situations qui peuvent venir, dans celui qui maîtrise tout. Vous voyez? Et ça, c'est important. Et maintenant, le verset 13, on va finaliser un peu là-dessus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et là, c'est intéressant parce que on peut se poser une première question, pourquoi cacher ses transgressions? Surtout quand on est chrétien et qu'on sait que Dieu connaît tout. Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison. Ce n'est pas simplement que nous sommes débiles, même ça, on le sait qu'on est débile, ça, ce n'est pas un grand scoop, on le sait, ce n'est pas un problème. Dit autrement, on est pécheur, on le sait, ça ne fonctionne pas bien là-haut, il y a un petit caillou dans l'engrenage, enfin, on le sait. Mais ce n'est pas ça le truc. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Pourquoi est-ce que je cache mes transgressions? Parce que j'en ai marre de me sentir coupable. Même si c'est devant Dieu. J'en ai marre de me sentir coupable. J'en ai marre d'être toujours perdant. J'en ai marre d'avoir l'impression de ne pas avoir de solution. Et vous savez pourquoi j'en ai marre de toujours vivre cette culpabilité? C'est parce que je ne vis pas la solution que Dieu me propose avec. Il y a une solution que Dieu me propose avec. Et cette solution, ça s'appelle la miséricorde. Et à partir du moment où je fréquente la vérité sans la misère, sans avoir un regard sur la miséricorde, c'est insoutenable. Je ne peux vivre que dans la culpabilité. Et une culpabilité qui est juste, qui est vraie, qui est expérimentée et qui est tout à fait avérée devant Dieu. J'ai faux, j'ai transgressé, c'est pas bon, je pense mal, je dis mal, je fais mal, je ceci, je cela. Voilà. Mais l'objectif de Dieu, est-ce qu'il est qu'un jour sur cette terre, je ne transgresse plus? Ça, c'est mon objectif, en fait. Et c'est pour ça que c'est pour ça que je suis dépassé par la culpabilité. Parce qu'en fait, à partir du moment où je transgresse, il est, comment dire, il est bon que je me sente coupable, mais il faut que cette culpabilité, me mène et soit accompagnée, du chemin de la miséricorde. Vous voyez? Et ce chemin de la miséricorde, je le trouve où? Dans la loi de l'Éternel. Et si je décide de détourner mon oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Je ne rencontre pas la miséricorde et je vis exclusivement dans la culpabilité. Et donc, je suis obligé de mettre en place un système qui est faux, un faux raisonnement sur les choses et m'intéresser plus au bien et au mal, plus aux points, aux annotations que je vais mettre. Plus, ouais, mais moi, c'est mieux que l'autre, ouais, mais c'est moins mal que lui, etc., etc. Alors que Dieu s'en fiche. Tu peux venir nu, coupable, nul devant moi, parce que moi, j'ai tout payé. Il y a ce chemin de miséricorde, il y a ce lieu de miséricorde. Comme il est dit en Hébreux 4, approchons-nous donc avec assurance, avec hardiesse, du trône de la grâce quand on en a besoin. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que nous vivons une vie chrétienne par moment où l'objectif de ma vie, c'est surtout, il ne faut pas que j'aille au trône de miséricorde. Donc ça veut dire surtout, il ne faut pas que j'aie besoin de miséricorde. Ma vie chrétienne, elle est réussie si je n'ai pas besoin de miséricorde, c'est-à-dire ne pas pécher, ou les cacher, ou trouver une explication autre pour que on ne puisse pas dire qu'il y a transgression, qu'il y a péché, qu'il y a erreur. Vous comprenez? Et en fait, non, on a besoin de vivre les choses beaucoup plus librement devant Dieu. On a besoin évidemment de régler les problématiques extérieures avec les autres, puisque on vit quand même les uns avec les autres. Et quand il y a des conséquences, pas forcément à mes pensées, mais en tout cas à mes paroles et à mes actes, si j'ai cassé des œufs, ben, il faut que j'en rachète des œufs. Si j'ai cassé quelque chose, il faut peut-être que je répare. Dans la relation, parce que c'est normal, on vit les uns avec les autres, et voilà, on va pas juste dire, voilà, je t'ai cassé ta voiture, et ben, oh, c'est dommage. Non, d'accord, t'es pardonné devant Dieu, mais lui, il a peut-être besoin d'une voiture, donc peut-être que moi, j'ai une réparation à effectuer dans le concret du quotidien. Mais devant Dieu, voilà, je suis coupable d'avoir cassé la voiture, mais je peux venir librement devant Dieu parce que j'ai obtenu miséricorde. Et je vis dans ce chemin-là, il n'y a pas de problème. Mais non, on vit les uns avec les autres, lui, il a besoin d'une voiture. Donc peut-être que je vais quand même faire quelque chose, je vais être remboursé, etc. Bien sûr, pour vous donner un exemple simplement. Donc ça, c'est très important. Celui qui cache ses transgressions, il est intéressant, il est dit, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Donc celui qui les avoue et qui les délaisse, il n'est pas dit qu'il prospère. C'est sous-entendu, mais ce n'est pas dit qu'il prospère. Il est dit qu'il obtient miséricorde. C'est ça qui est important. Et donc le point central pour nous, c'est ça. C'est d'obtenir miséricorde, de savoir que nous obtenons miséricorde. Et si je ne sais pas que j'obtiens la miséricorde, une, je vis dans la culpabilité, et deux, c'est très, très compliqué d'avouer mes fautes et qui plus est de les délaisser. Qui plus est? Très compliqué. Très, très compliqué. Ou alors par un biais un peu légaliste, machin, mais qui est en fait un paravent qui est faux. Un faux raisonnement, un faux fonctionnement, etc., etc. Et du coup, voilà, la chose, elle est là pour moi. Elle est de considérer profondément la miséricorde. Il nous est dit en Jacques N. Je ne sais plus si c'est. Attendez, je regarde. Non, c'est 2,22, je crois. Non, ce n'est pas 2,22, c'est 1,22 peut-être. D'accord, donc ici, ouais, on revient. Non, 22, on l'a lu tout à l'heure. Ce n'est pas ça. Alors, il s'est perdu. Où est-ce qu'il s'est perdu? On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'il s'est perdu. Oui, 2,12, Jacques 2,12. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Si je ne parle pas et je n'agis pas comme devant être jugé par une loi de liberté, déjà c'est bizarre une loi de liberté. C'est pour ça que du coup la loi de Dieu, j'ai l'impression que juste elle est là pour me condamner. Mais là il est parlé d'une loi de liberté. Pourquoi c'est une loi de liberté? Parce qu'il y a la miséricorde. Parce qu'elle a été obtenue. Et parce que c'est la finalité pour moi, c'est que je vais obtenir miséricorde et que je l'ai déjà maintenant. La suite, verset 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Donc si je considère la loi et le jugement et qu'en plus je ne fais pas miséricorde aux autres, je suis juste sous une chape de plomb qui s'appelle la culpabilité. Et en fait, je suis, dans moi intérieurement, alors que ce n'est pas forcément vrai, je suis en attente d'un jugement. Je suis en attente d'un jugement, alors qu'en fait, j'ai été gracié. Mon casier judiciaire est vierge. Et moi, je crois que je vais être décapité. Donc forcément, c'est très compliqué de vivre les choses, vous voyez? Et donc là, il nous est dit, versets donc 12 et 13, 13, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Et ça, j'ai besoin de... J'ai besoin, oui, de regarder la vérité en face, parce que la vérité est en Dieu, etc., et même de la comprendre encore mieux, grâce à une relation avec Dieu. Mais j'ai besoin, et ça va de pair, ça peut pas être dissocié. Il faut pas que ça soit dissocié. J'ai besoin d'avoir de pair, cette vision de la miséricorde, cette vision du trône de la grâce, cette assurance que je suis pardonné. Que mon casier judiciaire est vierge, que je suis accepté, que je peux rentrer dans la pièce, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Il y a rien qui empêche. Je peux rentrer dans la présence de Dieu, donc je peux avouer mes transgressions et je peux les délaisser par la puissance de la miséricorde. Sinon, je vais vivre un leurre. Je vais vivre un faux semblant. Vous savez, je vais vivre comme une image. Vous savez, des fois, même à Nîmes, il y a ça. Des fois, sur des murs, vous avez, comment on appelle ça, des trompe-l'œil. Des trompe-l'œil. Donc, une peinture qui fait croire qu'il y a quelque chose, mais en fait, il n'y a rien. C'est que de la peinture sur un mur. C'est un trompe-l'œil. Eh bien, est-ce que ma vie, c'est un trompe-l'œil ou est-ce que ma vie, c'est de m'approcher du trône de miséricorde parce que je sais que j'y ai accès? C'est de rencontrer celui qui m'a fait miséricorde et qui veut me rencontrer jour après jour et qui veut m'aider à délaisser mes fautes et qui veut vivre une... Vous savez quoi, une réflexion que je me faisais dernièrement, je me disais, Il y a une seule personne au monde avec qui on peut être transparent. Il n'y en a qu'une. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre meilleur ami, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre père, votre mère. Non, il n'y a qu'avec Dieu. Avec les autres, on n'est jamais absolument transparent. Et même, je vais vous dire, il y a pas mal de situations où il vaut mieux pas être transparent. Parce que si votre ami savait ce que vous avez dans votre tête à cet instant-là, il ne serait plus votre ami. Donc, vaut mieux la fermer. Vaut mieux la fermer et vaut mieux présenter juste la façade qui est connue, vous voyez? Mais devant Dieu, par contre, là, on peut venir tel qu'on est, tout nu. Tout nu, tout faux, mais là, on est accepté et c'est là qu'on rencontre le Dieu de miséricorde et on a besoin de voir notre vie chrétienne dans cet objectif-là et pas avec un autre. Tout autre objectif est faux et fallacieux. Donc voilà, je voulais juste vous encourager ce soir avec cette simplicité qu'il y a dans les proverbes et cette simplicité entre guillemets, de petits commandements qui sont simples en Dieu, mais qui sont inextricables et plus que compliqués en dehors de Dieu. Et vraiment, considérons, oui, la vérité, ça c'est sûr, mais considérons cette miséricorde et qui est la miséricorde, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner réellement la miséricorde, une vraie miséricorde, et qui soit efficace. Amen.